Je crois que ça n'a pas été absolument évident pour le Maroc, mais vous allez nous en dire plus. C'est-à-dire que finalement, de se retrouver dans la position de gérer la frontière de l'Europe. Et donc, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, sur la manière dont le Maroc finalement a accepté de remplir ce rôle. Quels ont été les pourparlers entre l'UE et le Maroc? Quel type de donnant-donnant il y a eu sur cette question-là, voilà, et comment le Maroc s'en tire de cette situation inconfortable?
Oui, donc on le sait que depuis le début des années 90, exactement en 1992, lors de la réunion du CIVI, il y avait donc cette volonté de pousser les pays du Maghreb, toute la rive sud, à jouer le rôle de gendarme. C'était affiché, Aznar à l'époque le disait d'une manière claire, et il poussait. Si vous regardez un petit peu ce qu'on appelle les 5 plus 5, les discussions entre les 5 pays de la rive sud de la Méditerranée et la rive nord de la Méditerranée, c'est-à-dire les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure pratiquement, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, et le Portugal, l'Espagne, ça discute. Annuellement, ils font des rencontres. Et quand vous regardez les minutes, c'est tout le temps que cette question revient en premier. Qu'est-ce que vous faites? Jouer le rôle. C'est une question très délicate. Très délicate dans le sens, personne ne veut jouer. À la limite, le Maroc, je crois, il a toujours joué son rôle de pays qui veut agir, veut mettre en place une politique, comme l'a dit Sa Majesté, une politique réaliste, mais humaniste. Et c'est ça ce qu'on oublie. Souvent, on va dans le réalisme, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Personne ne dit que voilà, tout rose, même ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, il faut Chaque pays-nation, chaque État-nation a le droit de protéger, de voir, d'avoir un droit de regard. Mais pas que le sécuritaire à fond. Pour moi, le sécuritaire à fond ne donne pas de résultat. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est coûteux en vie humaine. Il est coûteux. Il n'est bénéfique que pour les réseaux en vie. Et on le voit d'ailleurs. Il y a quelques années, pour émigrer d'une manière clandestine du Maroc vers l'Europe, ça coûtait quoi? 1000 euros maintenant, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça dépasse les 7000, oui, parce que le marché évolue. Les fermetures sont de plus en plus souvent. Donc, il y avait cette volonté de l'Union européenne de pousser. Ils ont commencé à pousser, vous avez tout le système, vous avez toutes les. Il y a même qui ont évoqué lors de certaines réunions d'aller faire des frappes dans les aéroports, dans les ports, où il y a les bateaux, surtout au niveau de la Libye. Bon, c'est une forme de Frontex, une politique militaire. Je ne suis pas contre les militaires, hein, soyons clairs. Mais simplement, il faut les deux. Il faut l'humain et le réaliste. On ne peut pas exiger que les pays de la rive sud jouent un petit peu à fond le rôle de barrière sécuritaire. Parce que ces pays aussi, ils ont leur intérêt. Ils ont leurs relations. Moi, je me vois mal. Je me rappelle qu'il y avait des événements dramatiques qui ont eu à Ceuta et Melilla dans les nuits du 5 ou 6 octobre 2005. Et il y avait un flot, je ne sais pas si vous aurez souvenu, il y avait un flot de médias de par le monde. Le Maroc chasse, le Marocain tue les Noirs, le Maroc. C'était affreux, c'est-à-dire on se sentait pas, on dit, c'est pas possible, c'est quoi ça? Mais c'était un déferlement mondial. Bon, il y avait, j'ai eu la chance d'être le rapporteur d'une commission parlementaire qui a fait le rapport que vous pouvez télécharger sur le site de Conseil de l'Ordre. Et quand on parlait avec des gens qui étaient, mais qu'est-ce que vous faites? Vous laissez passer? Vous arrêtez, vous défendez. Donc il y avait cette problématique. Donc à partir de là, il a fallu réfléchir pour, à la limite, se comporter dignement, leur donner leur dignité, mais aussi reconnaître leurs droits. Parce que, c'est-à-dire ce que je dis tout à l'heure, ce que nous demandons, ce que le Maroc demande pour ses concitoyens ou ses descendants à l'étranger, il faut qu'il l'applique. Il ne faut pas qu'il ait deux points de vue. Et c'est dans cet esprit qu'il y a eu donc le directif, et je n'ai jamais vu des décisions aussi rapides. C'est-à-dire, en laps de temps de 3 mois, pas la chronologie ici, mais si vous voulez, je peux vous la montrer, il y avait des décisions qui sont tombées les unes après les autres sur un laps de temps de 3 mois, et jusqu'à arriver à la politique que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est plurielle, globale, et qui touche tous les départements. Mais sachant que nous sommes qu'au début d'un processus. C'est-à-dire, on ne pouvait pas dire ce que les sociologues appellent l'hystérisme. C'est-à-dire un décalage entre une décision. On peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, mais comment vous faire comprendre à un policier ou un gendarme ou un monsieur X qui donne de changer du jour au lendemain. Donc il faut tout un processus d'apprentissage. Et ça, c'est pas spécifique au Maroc. Hein. En France, on a vécu ça, donc à la limite, il y a des travaux qui ont démontré un petit peu ce décalage, un peu partout. Donc maintenant, il y a tout sensibilisé à la société civile. Ce que vous allez voir, des fois, moi, ça m'est arrivé de faire des conférences comme ce que je suis en train de faire, discuter avec des gens comme vous, comme ça, puis il y a dit, monsieur Sharaf, vous voulez donner de la santé aux immigrés. C'est vrai, ils ont une couverture, donc ça a été, tout le monde est à droit comme un Marocain. Bonne ou mauvaise, mais c'est la même chose que les Marocains. Mais même nous, les Marocains, on n'a pas ça. C'est un petit peu la naissance, donc c'est vrai, il faut. Vous leur dites, moi je défends les droits de l'homme. Si je commence à dire, ça c'est un immigré noir, ça, je n'ai pas coopérant, hein. Ça c'est un immigré, donc je ne lui donne pas, mais c'est une ségrégation. À la limite, je donne, on n'est pas encore dans la ségrégation positive, mais au moins qu'ils aient les mêmes droits. Et les gens, quand on travaille avec eux, quand on leur explique, on leur dit, voilà, ils ne représentent que 0,3% au Maroc. On a 50 000 globalement. On a 50 000 Français au Maroc actuel. 50 000 Français au binational. Donc, vous voyez, donc, les immigrés ont dit en situation irrégulière, estimation. Lors du dernier recensement, on avait 86 000 et quelques, dont une grande majorité des Européens. Quand il y avait les.
Ça, c'est quoi ce
chiffre ? 86 000 de la population étrangère au Maroc.
86
000. Lors du recensement de 2014, 86 600 et quelques. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et vous dites, voilà, on est capable qu'ils soient intégrés dans la société marocaine, qu'ils trouvent du travail. Et en plus, c'est une richesse. C'est Voltaire qui disait quelque part. Sire, faites de sorte que vos citoyens aient envie de rester et que les étrangers aient envie de venir. Et c'est vrai. Moi, quand les gens me parlent, quand je suis avec des gens, je dis, mais je peux être fier d'être marocain, de voir des gens qui viennent s'installer. Parce que ça montre qu'on a plus de démocratie, qu'on est en changement, qu'il y a des possibilités de vivre, qu'il y a la paix, qu'il y a. Les gens s'y fuient. La Syrie, c'est parce qu'il y a des problèmes, ils ne peuvent pas vivre. Mais estimons-le heureux et fier, et accompagnons-le, faisons de l'empathie avec ces gens. Et ça, je crois que c'est un travail de longue haleine, on n'est qu'au début. Il faut reconnaître le processus qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais les pays européens, je crois qu'ils ne peuvent pas. On ne peut pas indéfiniment continuer à être dans le déni. Mais ça, je crois que ça doit venir aussi de la société civile, de l'organisation de tout le monde. Mais c'est un sujet, je comprends. Je comprends que pour les politiciens, les hommes politiques, ce n'est pas un sujet qui rapporte beaucoup sur le plan électoral. Hein, on sait, vous savez, il y en a un qui a dit quelques années, l'immigration est une richesse pour la France, c'est pas mal plus ce qu'il est devenu. C'est pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, moi. Il a disparu. Il avait dit il y a quelques années. Donc, vous voyez, c'est difficile. Donc, je sais que leur situation n'est pas confortable. Mais. Il a disparu, peut-être. Mais bon, donc. Et ça, donc, ça dépend des pays. Bien sûr, il y a des pays qui monnaient. Kadhafi le disait clairement. Parce que c'est vrai. Donc, maintenant, il y a une volonté. Même au niveau mondial, l'actuel secrétaire général des Nations Unies, donc, a repris le dossier, il le connaît parce qu'il était le président de l'ACR. C'est un Portugais, donc un Méditerranéen. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Puis, il y a l'ouverture de ce pacte global. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est-à-dire, au niveau mondial, il y avait une première réunion qui était en octobre 2006 sur la question de migration et développement. Déjà avant, parce que le concept, quand on parle de co-développement, c'est un concept français. C'est un concept qui était lancé par Rocard et qui était repris par Chevènement, avec Samina hier par la suite, qu'ils avaient créé tout ça, et on essaie. Donc ce concept, comment ? L'idée est simple. D'ailleurs, il y avait une étude qui était faite début des années 71 sur le Maroc, la Tunisie et la Turquie, par les Hollandais, ça s'appelle un projet Rembrandt, qui était partir pour rester. C'est-à-dire, on poussait comment les gens partent pour rester, ainsi de suite. Parce qu'à la limite, on dit quand il y a le développement, les gens restent sur place. Mais ce qui n'est pas souvent le cas. Je ne veux pas parler beaucoup, c'est... je suis désolé. Hein.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle.
Oui, oui,
il y en
a.
Ouais. Et il y a aussi, donc, bon, après, peut-être, est-ce qu'on. Parce qu'en fait, donc, il y a les intervenants qui sont déjà arrivés. Ouais. Et notamment, il y a Madame Barry, qui est présidente d'une association de migrants subsahariens, et qui, du coup, aurait aussi une question à vous poser par rapport à votre intervention. Donc, je ne sais pas par où on commence.
Je réponds.
Peut-être. Comment ?
plusieurs questions, en commençant par la question.
Alors, on commence par la vôtre, et puis on prend les autres questions en même temps, et ensuite...
Bonjour tout le monde. Je me présente, Madame Marie Aïssatou, présidente de l'association Pont Solidaire, migrante au Maroc depuis 7 ans, mère de 5 enfants, résidente à Tanger. Je veux juste vous poser des questions, parce que vous avez parlé tout à l'heure sur l'endroit-là, on dit qu'on tue les migrants. J'aimerais savoir que si vous êtes d'accord ou pas. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, il y a l'Internet ici, moi je montre les preuves. Juste devant tout le monde, ça c'est...
Je n'ai pas entendu votre question. Hein. Je n'ai pas entendu, je connais, de toute façon, je connais, mais je ne connais pas, je n'ai pas entendu votre question.
J'ai dit...
Oui.
Je pose une question d'abord. C'est-à-dire sur l'endroit là où on dit qu'on tue les migrants, ici, au Maroc. Est-ce que le Maroc est d'accord ou pas? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que les migrants ont le même droit que les Marocains? Et sur quelle base? Base santé, base éducation, base logement et tout ce qui s'ensuit, la vie quotidienne. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors,
bonjour, Sarah Arbic, je travaille avec un sénateur français. J'ai trois questions, donc j'essaye d'être brève. Vous avez parlé d'une politique naissante de droits des immigrés, donc c'est très intéressant. J'aimerais savoir s'il y a une approche diplomatique là-dessus. Est-ce qu'il y a des discussions entre les pays proches du Maghreb là-dessus, puisque moi je ne connaissais pas cette politique de droits des immigrés, j'avais plutôt la notion que certains des pays proches ramenaient des migrants et les laissaient mourir dans le désert. Donc est-ce qu'il y a une politique du Maroc pour essayer justement de rayonner, de faire connaître cette politique? J'ai une autre question parce qu'il y a très récemment Le Monde a titré le mariage des mineurs un fléau au Maroc, avec ensuite le portrait de femmes marocaines qui avaient été mariées de force et qui disaient de toute façon le mariage forcé ça ne marche jamais, on finit toujours par s'enfuir, et qui expliquaient qu'elles étaient venues refaire leur vie en France, qu'elles étaient mariées avec des Français. J'aurais aimé savoir s'il y avait des travaux sur ces questions, le lien entre immigration et maltraitance des femmes. Et enfin, j'aurais aimé vous entendre sur la diversité des populations au Maroc. Vous en avez un petit peu parlé par rapport à la Constitution. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a un lien entre immigration marocaine et pauvreté de certaines régions qui avaient été un peu oubliées par le pouvoir central, ou est-ce que cela n'existe pas? Je ne connais rien. J'aimerais vous entendre. Et sur la diversité des populations, du coup, je suis intéressée aussi de savoir comment sont vécues les migrations internes au Maroc, puisqu'hier, nous avons visité l'usine Renault. On nous a expliqué que l'usine Renault était un projet pour tout le Maroc et qu'il y avait une politique des ressources humaines qui consistait à recruter des personnes qui venaient de tout le Maroc. Est-ce que l'arrivée de gens de Casa, enfin de toutes les régions, est bien vécue par la population du Nord, ou est-ce que c'est pas du tout un sujet?
On continue encore de questions, et puis...
Xavier Opierre, ODF, et dans une vie antérieure, dans une ONG qui s'occupait de développement des femmes. Est-ce qu'on peut dire que les défis de la politique migratoire aujourd'hui sont la résultante du non-respect des engagements des pays du Nord en matière d'aide au développement, en particulier dans l'aspect budgétaire de l'aide au développement? Ce développement, vous nous l'avez montré en disant avec les 3D, on a les critères qu'il faut atteindre pour limiter les départs. Donc, quelle politique pour favoriser les droits des femmes en matière de gestion démographique, enfin en matière de droit à décider d'avoir ou pas des enfants? Quelle politique d'éducation spécifique, parce qu'on sait que le développement passe essentiellement par le niveau d'éducation des femmes, que ce soit le développement économique ou le développement des droits humains. Et par ailleurs, est-ce que l'amélioration des niveaux de formation est un atout pour le développement du pays ou un facteur facilitant l'immigration? Merci.
Bonjour, Sophie Renard, département de l'Atlantique. Les départements en France sont compétents en matière de protection de l'enfance. Ils donc sont confrontés à la question des mineurs non accompagnés. Vous avez évoqué, vous avez aussi mineurs isolés étrangers. Donc je voulais savoir si, dans le cadre de la politique migratoire et qui est finie par le Maroc, vous avez une approche spécifique pour accompagner les jeunes mineurs. Et est-ce que d'ailleurs, quand ils sont au Maroc, venant d'autres pays, se revendiquent comme mineurs, et est-ce qu'ils ont des droits spécifiques liés à leur statut de mineur?
Déjà, je vais rectifier quelque chose, si vous permettez. Moi, je suis enseignant-chercheur, c'est tel que j'étais présenté, parce que les questions m'ont été posées comme si je représentais le gouvernement. Je ne suis pas le gouvernement marocain. J'ai insisté, même quand j'ai présenté le CNDH, je me suis dit qu'il était indépendant. Vous vous rappelez, quand j'ai dit le principe de Paris et tout. Donc, soyons clairs. Donc, et d'une, de deux, je ne suis pas là pour défendre ou... Je suis là pour dire ce que je pense, la manière de prendre en tant que chercheur, en tant que militant des droits de l'homme. J'avais dit que la politique, elle est naissante. Je n'ai jamais dit qu'il ne peut pas y avoir des dérives. Madame, vos enfants, je crois qu'ils vont à l'école, je suppose, madame.
Moi ?
Oui, les 7 enfants dont vous avez parlé.
J'ai
5
enfants, c'est moi-même qui ai inscrit mes enfants à l'école.
Oui, mais quelle école ?
Ahmed Chouki. En ce moment, j'étais sans papier.
Oui, sans papier, vous avez réussi. On avait discuté à Rabat, je me rappelle très bien. On avait discuté à Rabat. Donc, il peut y avoir des dérives. Hein. J'ai jamais dit que les Marocains étaient des parfaits, il n'y avait pas de racisme. Je suis le premier qui peut le dire, parce que le racisme, ce n'est pas spécifique à un État ou un pays, pas d'autre. Si vous regardez le rapport dont j'ai parlé en 2005, qui était publié en 2006, on le voit très bien qu'il y a un passage, je peux regarder, je peux vous le montrer, où il dit que, attention, il y a des risques de dérive. Le regard qu'on descend l'autre fois peut se transformer. Donc il faut faire attention. Déjà en 2006, on avait écrit ça. Donc il peut y en avoir. Mais vous parlez de mort. Je ne pense pas que la police, que les autorités ne font pas leur travail. C'est-à-dire, vous avez ici, ne serait-ce qu'au niveau de danger, je suppose, vous parlez de danger, il y a des structures qui accompagnent, ils suivent. Il y a des enquêtes, il y a la société civile, il y a une commission nationale des droits de l'homme et le conseil national des droits de l'homme. Donc il y a des structures. On est en train de construire ensemble. Ici, on ne voit que le verre à moitié vide ou à moitié plein, donc on ne pourra pas avancer. Par contre, quand on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dénoncer, il faut agir auprès des responsables, suivre. Et je crois, ici dans cette ville, il y a quelques années, il y avait un article qui était publié en 2003 qui disait que les criquets noirs envahissent le nord du Maroc. Et j'étais fier de voir que la société civile a suivi ce journal ici et qui a été condamné. Idem quand il y avait le journal Maroc Hebdo qui avait fait le périple noir. C'était la même chose. Donc on voit qu'il y a une société civile qui suit. On est en train de construire. Et la preuve, vous êtes là depuis 7 ans. Donc je vous souhaite longue vie ici et vous agir. Il faut agir. Ceci d'autant plus que la constitution marocaine, comme je l'ai dit, le droit de vote. Le droit de vote a été évoqué dans les 110 propositions de Mitterrand en France. Il n'a jamais été appliqué. Vous le savez, madame, vous avez le droit de vote au Maroc. Mais à condition que votre pays accorde pour les Marocains dans votre pays la même chose. Donc pourquoi? Parce qu'on part d'un principe qui est très simple, le droit de cité. C'est-à-dire que vous vivez dans une ville, et ça vous avez des femmes et des hommes de terrain qui vous disent, si vous n'avez pas la voix, vous ne représentez rien. Parce que souvent, parce qu'on essaie, moi ce que j'essaie de voir, ils essaient d'agir, je ne suis pas le seul avec beaucoup de monde, c'est qu'on prenne les expériences des autres pays, on l'évite, qu'il n'y ait pas de ghetto. Mais ça demande un travail collectif, ça demande une préparation. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai parlé, et je crois que Julio va vous dire tout à l'heure au niveau des territoires, maintenant comment descendre au niveau de... Comment appliquer? Je l'ai dit moi-même. J'ai dit tout à l'heure, bon, il y a des gens qui restent un petit peu dans leur position, donc il faut les former, il faut faire des... On fait des interventions au niveau de l'école de gendarmerie, de police, et ainsi de suite, avec des réunions pour expliquer. Et ça, je crois que c'est tout un travail qui demande l'accompagnement de la société dans sa globalité. Et j'espère, en tout cas, qu'on arrivera. Mais on n'arrivera pas seul. Et donc, c'est pour ça qu'on était parmi les recommandations du Conseil national des droits de l'homme dans son rapport, c'est d'inciter, d'accompagner, d'encourager les immigrés à créer leur association pour qu'ils se défendent par eux-mêmes. Et ça, je crois aussi, c'est quelque chose d'important. C'est aussi, quand je vous ai dit qu'il y a deux représentants de la société civile, souvent, on trouve des personnes issues d'immigration qui sont dans ces commissions. D'ailleurs, au niveau national, il y a, au niveau de la commission de recours, des subsahariens qui sont représentés dans cette commission de recours. Donc, on essaie de construire. On construit ensemble, pas individuellement, pas voir que ce qui est négatif. Il faut voir, c'est vrai, il peut y avoir des choses, je ne dis pas, mais il ne faut pas focaliser que sur ça.
Personne n'est pas moi, je suis dans la commission.
Merci. S'il vous plaît, on ne va pas faire un discours entre deux. Faire une discussion si vous voulez. Vous avez posé des questions.
Je veux m'intégrer. Si je ne veux pas m'intégrer, ma carte n'est pas renouvelée, ça fait 2 ans. Je ne suis pas la seule.
Merci. Je pense que de toute façon, vous aurez l'occasion d'intervenir plus spécifiquement après. On peut passer pour les dernières réponses, et puis parce qu'en fait, je vois nos intervenants pour la deuxième partie sont déjà là depuis un petit moment. Donc voilà.
Mais une question qui était sur les femmes. Oui, une question sur les femmes, c'est très délicat, très difficile, il y a des problèmes. Là aussi, je vous envoie un rapport qui a été fait il y a 2 ans par le Conseil national des droits de l'homme sur la situation de la femme en général au Maroc, et c'est terrible. C'est terrible. Déjà, vous savez, même en France, quand on regarde la France, je pense le 8 mars. Quand ils ont arrêté à 3h30, je crois, les femmes, parce que 75%, ils étaient, c'est ça. Donc, au Maroc, il y a énormément de problèmes, c'est vrai. La Moudouane, elle a porté des choses, mais il reste beaucoup de choses. Il y a eu, on a mis en place 97 recommandations pour changer, pour l'égalité, pour la scolarisation, et ainsi de suite. Mais la situation reste préoccupante. Bon, mais c'est à la limite, je ne sais pas, il y a eu une étude qui était faite début des années 2000 sur les pays de la région MENA, et qui a montré 2 problèmes pour le développement. C'est-à-dire la formation, manque au niveau difficile de la formation, et deuxièmement, l'handicap de base qui ne permet pas à ces sociétés d'avancer, c'est la situation de la femme. On ne peut pas avancer sur un seul pied facilement. Donc il faut, la société doit l'égalité totale. Et ça, je crois, dans les recommandations du Conseil sur le droit de l'homme, il y avait même à l'époque une recommandation qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est au niveau de l'héritage, droit d'héritage des hommes et femmes. Donc, oui, mais la situation est là, donc là aussi, il faut travailler. Des régions oubliées de pouvoir. Oui, il y avait des régions, mais c'était ce qu'on appelle les années de plan. Depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'il y avait la réconciliation, puis il y avait donc tout un processus qui était mis en place depuis les années 2000 pour revoir un petit peu ce contrôle. Donc, il y avait une commission qui était créée, qui a parcouru, il y a des documents que je peux mettre à votre disposition. Tout ça, ça a été fait par le Conseil consultatif des droits de l'homme. Et c'est suite à ça qu'il y a eu le Conseil national des droits de l'homme. Donc il y avait 2 types de réparations, ce qu'on appelle les réparations individuelles, parce qu'il y avait des gens qui étaient privés d'école, d'enseignement, c'était dans les prisons, il y avait des gens qui travaillaient, qui étaient licenciés parce qu'ils étaient emprisonnés, et ainsi de suite. Donc il y avait tout un système pour les compenser, pour les réintégrer dans la société. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle la réparation collective, parce qu'il y avait des régions, Agdz, par exemple, dans le sud, et ainsi de suite, dans le Rif. Et là, on a essayé de mettre donc, tout un système en place avec l'aide de l'Union européenne pour réintégrer un petit peu ces régions à travers des projets structurants. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je peux vous mettre à votre disposition toutes les informations. Il y a eu un travail qui a été lancé donc, à partir des années 2000. Et l'opération s'est terminée il y a pratiquement 3 ans. Mais c'était un travail donc, de réconciliation nationale à travers ce processus pour réintégrer ces gens qui étaient plus ou moins exclus. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est vrai, c'est l'EDF qui était à l'origine, hein, parce que c'est des gens dans la région migration et développement, l'association dont j'ai parlé, ils étaient portés par des ingénieurs de l'EDF, et un syndicat que je n'aime pas pour ne pas froisser. C'est la CDT, je crois. Non. Donc, il y avait effectivement, mais ça donne la CDT, Donc, il y avait cette association, il a fait beaucoup de petits au niveau de la région, et il travaille très très bien, et c'est vrai, c'était une forme d'aide compensée, mais ce n'était pas de l'aide publique. Les aides publiques, au niveau international, l'aide au développement, ils s'abinuisent de plus en plus. C'est-à-dire, même à tel point qu'il y avait, tout à l'heure, je vous ai montré les transferts, il y avait des pays qui voulaient inclure les transferts des immigrés dans l'aide au développement. Ce qu'ils font, parce que ce n'est même pas de l'épargne, ce que je vous ai montré, les milliards dont je vous ai parlé ici. C'est une privation. L'immigré se prive d'un certain nombre de choses pour aider sa famille, sa région, et ainsi de suite. mais c'est en aucun cas une aide. C'est parce qu'ils travaillent pour gagner cet argent et pour transmettre, envoyer une partie de. Mais c'est vrai, l'aide au développement il est de moins en moins importante. Mais on trouve d'ailleurs dans certains cas, ce que tout à l'heure le collègue de Loire-Atlantique, donc il a parlé de l'aide, maintenant avec l'aide décentralisée, par exemple au niveau de la région Sousse-Massa ou de la région d'Agadir, on travaille beaucoup avec la Loire-Atlantique, donc notamment le conseil régional. Et on a mis en place justement, moi la commission que je préside, là je parle de moi, vous voyez, donc, tout à l'heure je parlais en tant que chercheur, on a mis en place une plateforme associative et on essaie d'accompagner les jeunes, les enfants, pour les sensibiliser justement sur toutes ces questions. Donc les plateformes, on travaille sous forme du jumelage, une association qui travaille le handicap, une association qui travaille sur les femmes, avec une association de l'autre côté, et on essaie de faire des activités. Et l'un des problèmes qu'on a rencontré, c'est la formation. Parce qu'on trouve souvent les militants associatifs, ils deviennent eux-mêmes des professionnels pratiquement. On trouvait un, moi, j'ai des collègues en enseignance, son fils il est autiste, donc il est devenu spécialiste de l'autisme. Mais en même temps, il le fait sur son temps. Donc il fallait former des gens pour accompagner. Donc on a mis en place une licence d'accompagnement social avec l'aide du conseil général pour former des jeunes, pour jouer le rôle d'accompagnateur social. Mais tout ça, c'est nouveau, hein, c'est récent, qui demande aussi du temps. Donc, vous savez, ça ne se fait pas. Ça, la temporalité n'est pas la même. Le citoyen veut que ça soit immédiatement, il y a des choses qui sont dans le long terme. Alors, il y a une autre question qui parlait de développement facteur facilitateur de l'intégration. On sait quand on est dans une phase, toutes les études, il y a Georges Tapinos, un ancien de Sciences Po, qui a fait des études, qui a démontré il y a quelques années, quand on est dans une phase de développement, comme ce qui vit le Maroc, on est encore d'immigration et des tentations. Mais on arrive à un stade où ça s'arrête, et ça s'inverse. Au contraire, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Et le Maroc, je crois que ça commence. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a des journalistes, il y a des subsahariens qui travaillent dans des banques, il y a ainsi de suite, il y a un certain nombre, hein, il y a des entrepreneurs, on en voit de plus en plus. Actuellement, il y a 18 000 étudiants subsahariens qui sont inscrits au Maroc. Dans 7 000, pratiquement, ils ont une bourse. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent petit à petit, mais c'est pas, on ne peut pas comparer avec des pays à forte immigration ancienne. Je crois que j'ai répondu à tout le monde, il me semble. Je n'ai pas oublié. J'essayais de synthétiser.
Voilà, donc merci beaucoup. Encore merci pour votre discussion.